Radio Prague, les informations.
Selon le président polonais, l'Union européenne devrait soutenir les mécanismes démocratiques en Afrique du Nord. En 2011, la croissance de l'économie tchèque atteindra 1,65%. Le chef du syndicat des médecins appelle les médecins tchèques à retirer leur démission. Selon le président polonais Bronislav Komorowski, qui effectue une visite officielle en République tchèque, l'Union européenne n'était pas préparée au changement en Afrique du Nord. À son avis, l'Union devrait trouver le courage pour soutenir à long terme les mécanismes démocratiques dans les pays de cette région. Le président polonais a fait cette déclaration à l'issue de sa rencontre au château de Prague avec son homologue tchèque Václav Klaus. L'Union européenne a appelé dimanche soir le colonel Kadhafi à répondre aux aspirations légitimes de son peuple et à cesser de réprimer dans le sang les manifestations en dépit des menaces de Tripoli envers l'Europe d'ouvrir les vannes de l'immigration clandestine. Le ministre tchèque des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg, cité par l'agence France Presse, a estimé, lui, que la chute du colonel Kadhafi pourrait entraîner d'autres catastrophes plus grandes dans le monde. En ce moment, si nous nous mêlons de la situation, nous nous ferions que compliquer l'affaire, a-t-il précisé, estimant que l'Europe devait faire preuve de la plus grande retenue. Au cours de cette année, la croissance de l'économie tchèque ralentira et n'atteindra que 1,75%. L'année dernière, la croissance en République tchèque a atteint 2,3%. Une déclaration de Zuzana Murgašová, chef de la mission du Fonds monétaire international, FMI, lors d'une conférence de presse à Prague. Selon Zuzana Murgašová, le Fonds monétaire international considère le budget pour l'année 2011 comme décisif pour la politique fiscale durable de la République tchèque. La politique centrée sur les restrictions au niveau des dépenses budgétaires serait, d'après la représentante du Fonds monétaire international, un bon chemin vers la diminution du déficit. Le chef du syndicat des médecins tchèques, Martin Engel, a appelé tous les médecins ayant participé à la campagne « Merci, on s'en va » à retirer leur démission. Dans le cadre de cette campagne, quelque 3800 médecins hospitaliers tchèques ont donné leur démission pour imposer notamment leurs revendications salariales. La direction de l'hôpital de Vinohrady à Prague refuse pour l'instant de faire signer avec Martin Engel un nouveau contrat de travail car son poste de radiologue est déjà occupé. Après l'accord trouvé avec le gouvernement, Martin Engel a remercié tous ceux qui lui ont exprimé leur solidarité, mais ne veut pas que son cas fasse échouer l'accord avec le gouvernement. Au cours des 50 dernières années, la température moyenne annuelle en République tchèque a augmenté d'un peu plus d'un degré Celsius. Une information fournie par l'Institut tchèque d'hydrométéorologie qui se base sur les températures enregistrées dans les multiples stations hydrométéorologiques depuis des décennies. 60% des personnes interrogées se sont prononcées pour l'élection présidentielle directe en République tchèque. Jusqu'à présent, le président tchèque est élu par les deux chambres du Parlement tchèque. Jitka Němcová, réalisatrice du cinéma, a présenté ce lundi à Prague un film consacré à son mari Otakar Vávra, doyen du cinéma tchèque, qui fêtera son centenaire le 28 février prochain. Le film sera présenté à Česká televize, télévision publique tchèque, le 27 février. Au cours de sa carrière, ayant commencé encore à l'époque du cinéma muet, Otakar Vávra a réalisé une cinquantaine de films de genres différents et dont la qualité était inégale. Météo. Ce lundi, fête de toutes les Lenka, Leonora, en République tchèque, le ciel en Tchéquie est nuageux à variable avec quelques faibles chutes de neige et les températures se situent entre moins 7 et moins 3 degrés pour les maximales. Mardi, le temps en Tchéquie sera clair et les températures diurnes se situeront toujours entre moins 7 et moins 3 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter. Et je cède le micro à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque. Bonjour à toutes et à tous et merci à Václav Richter pour ce bulletin d'information. La réforme des retraites est un des fers de lance du cabinet de Petr Nečas. Le projet de réforme est prêt, même s'il va encore être débattu, mais déjà une des mesures phares qui vise à couvrir le déficit des retraites, soit une augmentation drastique de la TVA, provoque des remous, notamment dans le monde de l'édition. Les détails dans quelques instants. De livres, il en sera toujours question ensuite, mais d'anciens manuscrits médiévaux cette fois. Enfin, on passera à la rubrique sportive en deuxième partie d'émission. Bonne écoute de ce programme. Jeudi dernier, les ministres tchèques en charge de l'économie se sont mis d'accord sur les grandes lignes de la réforme des retraites. Le projet sera soumis au gouvernement mercredi prochain. D'après le premier ministre Petr Nečas, la version définitive sera prête début mars. Le projet fera ensuite l'objet d'une discussion entre la coalition gouvernementale et l'opposition. Dans ces grandes lignes, si l'ancien système basé sur la solidarité intergénérationnelle devrait être en partie conservé, le projet prévoit la création de fonds de pension privés. Les personnes de moins de 35 ans pourraient ainsi, à partir de 2013, cotiser 3% de leur assurance sociale sur des comptes d'épargne retraite privée. Dans le cadre de ce projet de réforme des retraites, les ministres ont également prévu un taux de TVA unique fixé à 20%, une mesure qui permettrait à l'État d'économiser entre 57 et 58 milliards de couronnes par an, somme destinée à couvrir le déficit des retraites. Ce taux de TVA unique touchera également les produits taxés jusqu'à présent à 10%. Seuls certains produits alimentaires de base, comme le pain, le lait, les légumes ou le poisson, seront exemptés de cette augmentation de la TVA. Parmi les secteurs directement concernés par ce changement, le secteur de l'édition et le monde du livre, et en particulier les petits éditeurs, dont l'inquiétude est grande, comme Teresa Horvatova des éditions Baobab.
Avant tout, le taux de TVA sera de 20% pour tout. Ça veut dire aussi pour les livres, ce que pour un petit éditeur, comme nous sommes, et il y en a beaucoup, dans l'état actuel, nous paraît vraiment liquidant. Moi, je ne suis pas ni expert des taux, ni rien d'autre, mais je peux l'expliquer. L'état actuel, je peux l'expliquer sur cette situation. Nous faisons un livre, nous le donnons au distributeur. Le distributeur nous demande presque 50% du prix. Mais il ne prend aucun risque parce qu'il l'a dans la commission. C'est seulement le petit éditeur qui prend le risque. Et quand vous comptez encore 20% du prix qui, bon, c'est TVA, ça se compte pas précisément comme ça, mais c'est vrai que encore l'argent en plus, ça veut dire que les livres deviendront très chers parce que on devra payer, par exemple, aux imprimeries beaucoup plus, etc. Et dans l'état actuel, quand, par exemple, un prof à l'école a 20 000 couronnes par mois, je ne pense pas qu'il va pouvoir s'acheter un livre de 500 couronnes. Oui, un livre, mais pas plus.
D'une certaine façon, en fait, vous critiquez ce projet et donc ce taux de TVA unique à 20%, pas uniquement, disons, pour votre secteur, mais d'une certaine façon sur les conséquences que ça peut avoir sur la société, donc de manière plus générale, peut-être sur l'éducation également.
Bien sûr, parce que en fait, qui sont les gens qui demandent les livres des petits éditeurs? Mais je pense que c'est pas seulement la question de la petite édition, c'est sûrement la question des grands éditeurs aussi. Mais je peux parler de ma position. Donc, ce sont les gens qui demandent quelque chose d'un peu spécial. Les petits éditeurs font les choses spéciales qui ne font pas des milliers d'exemplaires, ils font 2-3 000 exemplaires. Donc c'est pour un public qui, par exemple, est spécialisé, ce sont les professeurs, les gens de la culture, etc. Donc comme ça, ces gens qui ne sont pas bien payés non plus, qui souvent travaillent dans le secteur de l'État, ne sont pas bien payés, comme ça ils ne pourront plus s'acheter les livres. Mais pas seulement les livres, mais si on pense au théâtre, etc. C'est toujours le même problème. Je pense que quand même il faut surveiller que la culture fait. La culture est quelque chose que l'État doit soutenir et garantir aux gens, que sans la culture vivante, on ne peut plus parler de l'État.
Est-ce que, par exemple, pour vous, au niveau de l'édition, est-ce qu'il y a des exemples à suivre en Europe desquels, par exemple, vous estimez que la République tchèque devrait s'inspirer?
Je sais que les taux en Angleterre, il n'y a presque pas de taux pour les livres. En Angleterre, en Irlande, etc. Puis que les taux sont très bas dans d'autres pays, sauf Bulgarie et Danemark. Mais à Danemark, il y a beaucoup de soutien de la part de l'État. Par exemple, les bibliothèques doivent acheter les livres qui sont publiés, ce qui aide beaucoup aux petits éditeurs, bien sûr, à l'éditeur. Je pense que ce qui serait bien, c'est de vraiment repenser cette politique des livres et de soutenir vraiment ceux qui font la haute culture dans le livre.
Est-ce qu'il y a des possibilités de discussion ou de négociation avec le ministère de l'économie?
Alors, il y a trois éditeurs qui ont écrit une lettre qui parle de cette situation, et ils l'ont envoyé un peu partout. Et puis, ils ont aussi un petit peu négocié. J'ai entendu dire que le ministre Besser a dit qu'il va essayer de faire de mieux, mais je ne l'ai jamais lu officiellement par le ministère, donc on va voir. Je pense que maintenant, c'est le temps vraiment de crier, et je pense que les éditeurs devraient vraiment maintenant montrer ce qu'ils veulent.
Le Musée national de Prague expose depuis vendredi au public le manuscrit de Bautzen de la chronique de Cosmas, écrite en latin au XIIe siècle. Cette exposition s'inscrit dans un projet plus large de présentation au public jusqu'à la fin du mois d'avril de plusieurs précieux manuscrits de textes importants pour l'histoire tchèque, dont la fameuse chronique de Dalimil. La chercheuse française du CEFRES, Héloïse Hade, rédige en ce moment une thèse sur cette chronique de Dalimil. Elle a parlé de ses textes à Alexis Rosenzweig.
La chronique de Cosmas, c'est une entreprise assez originale pour l'époque, puisqu'elle date de, on la date à peu près de 1125. Donc le manuscrit qui est présenté à l'exposition est lui plus ancien, parce qu'on n'a pas de manuscrits d'époque. En général, c'est le problème avec les textes médiévaux, on a toujours des copies, et on sait par les reprises, par d'autres informations dans des documents environnants, on sait dater le texte original, mais très souvent on ne l'a pas, et là c'est le cas avec Cosmas, et le manuscrit qui est conservé donc et qui est présenté dans le cadre de cette exposition est le plus ancien le plus ancien manuscrit de ce texte. Et ce texte est très important parce que c'est déjà au niveau de la Bohème, c'est la première chronique des Tchèques qui est écrite. Alors cette chronique est écrite en latin, certes, mais c'est une chronique quand même qui essaie déjà de pourvoir la population tchèque d'une identité commune et d'une histoire aussi commune, puisque l'identité au Moyen-Âge s'appuie sur un passé commun essentiellement. Le Moyen-Âge est friand d'ancienneté. L'ancienneté, c'est ce qui fait la légitimation. Donc cette chronique est une première grosse entreprise en ce sens-là. Et au niveau européen, elle est considérée comme la première chronique dédiée à un peuple, véritablement, puisqu'avant on avait surtout des chroniques universelles qui avaient pour but de raconter l'histoire de l'humanité. Et là on se détache de ce premier programme qui est encore qui correspond à une société universelle latine et donc centré sur un peuple en particulier. Donc c'est un texte qui est important même au niveau de l'histoire européenne, de la chrétienté médiévale, puisque l'Europe se définit avant tout par cette appartenance religieuse au Moyen-Âge.
C'est un manuscrit qui a été donné par le régime communiste est-allemand au président Kotvaz, mais si on peut parler également d'une chronique que vous connaissez beaucoup mieux, puisque c'est le sujet de votre thèse, il me semble, c'est la chronique, la fameuse chronique de Dalimil.
Alors cette chronique, elle est à nouveau intéressante, puisque... Alors déjà, ce qui est important, c'est qu'elle est écrite dans un contexte très difficile pour la Bohème. La Bohème est menacée par le voisin allemand, puisque Daligny décide d'écrire sa chronique au moment de l'interrègne qui survient après la fin de la dynastie des Przemyslides, qui commence suite à l'assassinat de Wenceslas III en août 1306, et qui ouvre une crise sans précédent, puisque Wenceslas III n'a pas de successeur. Et le problème de la Bohème, c'est que le pays ne s'était jamais trouvé face à une telle situation, et c'était impossible finalement de prendre un roi dans une autre famille. La seule famille qui était apte à régner, c'était la famille des Przemyslides. Et en fait, la Bohème n'avait pas encore, la population n'avait pas encore dépassé le stade de se dire, ben c'est pas grave, on va prendre quelqu'un d'une autre famille. Ça paraissait infaisable. Et du coup, il y a eu une grande crise qui s'est ouverte avec des successeurs, des prétendants qui ont essayé de monter sur le trône. Il y a eu deux rois qui se sont succédés, le roi Rodolphe de Habsbourg et Henri de Carinthie, et aucun n'a été capable de s'imposer sur le pays. Et Daligny, il a donc voulu prendre la parole, en fait, pour demander aux nobles de se mobiliser et d'intervenir, et surtout de mettre un roi tchèque qui résolve la crise et surtout qui permette à la Bohème de ne pas tomber sous la domination allemande. Et donc, c'est dans le principe, cette chronique est quand même dans la continuation de Cosmas, puisque c'est aussi un message censé mobiliser une nation, une population de même langue, de même culture, leur montrer qu'ils ont une histoire commune, que durant toute cette histoire, les Allemands leur ont toujours fait entrave, du tort, etc. Et donc empêcher qu'un roi habsbourgeois, un roi allemand, s'installe sur le trône de Bohème.
Voilà, c'est la fin des faits et événements. Dans la deuxième partie du programme, c'est-à-dire la rubrique sportive du lundi, je vous propose de réentendre le portrait d'un des plus grands joueurs de foot tchèque de tous les temps, qui a fêté le 9 février dernier ses 80 ans. Les détails tout de suite avec Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
Teda to jeden, kdo to tušil, kdo to věděl, že to projeden. Jestli defenziva nevydrží, je to děs.
Premier footballeur tchèque et de l'Europe de l'Est à avoir reçu le Ballon d'Or récompensant le meilleur joueur européen en 1962, soit 41 ans avant Pavel Nedvěd, Josef Masopust a soufflé ses 80 bougies, un anniversaire célébré en grande pompe en République tchèque, où les amateurs de ballon rond se sont souvenus d'un joueur à la technique hors norme et d'un homme modèle de fair play et de modestie. Quinzième minute de la finale de la Coupe du Monde en juin 1962 à l'Estadio Nacional de Santiago du Chili. L'envoyé spécial de la radio tchécoslovaque est euphorique. Contre le Brésil champion en titre, la Tchécoslovaquie vient d'ouvrir le score grâce à un but de son meneur de jeu, Josef Masopust.
J'aurais préféré marquer non pas le premier, mais le dernier but de ce match. Le but victorieux qui nous aurait permis de ramener la coupe chez nous, en République socialiste tchécoslovaque.
Buteur malheureux d'une finale de Coupe du Monde finalement remportée par le Brésil, 3-1. La deuxième finale de la Tchécoslovaquie après une première également perdue contre l'Italie en 1934, Josef Masopust aura de quoi se consoler quelques mois plus tard. À Prague, avant le coup d'envoi d'un quart de finale de Coupe d'Europe des clubs champions, avec son club du Dukla contre le grand Benfica de Zebio, il reçoit le Ballon d'Or France Football récompensant le meilleur joueur européen de l'année 1962. À l'époque, un an avant le légendaire gardien soviétique Lev Yashin, Josef Masopust est le premier joueur d'un pays d'Europe de l'Est à se voir attribuer le prestigieux trophée. Correspondant de France Football en République tchèque depuis de nombreuses années, Stanislav Rabier explique quelle est la place de Josef Masopust dans la riche histoire du football tchèque.
Josef Masopust était le meilleur joueur du siècle, mais ces comparaisons, c'est trop terrible. Quel meilleur? Masopust ou Nedved, Pelé ou Maradona? Ce sont seulement des questions, c'est des spéculations. Par notre opinion, Masopust, c'est un joueur historique.
Élu plus grand joueur tchèque du XXe siècle, en 2000, Josef Masopust a marqué la mémoire des amateurs de foot, d'abord pour son élégance sur le terrain.
Le grand Krian Ota Pavel a écrit « Masopust, c'est bizarre, pas de buteur, pas de rapide, c'était meneur de jeu, de organisateur, c'est un chef, technicien. » Pelé a dit « Ce n'est pas possible, c'est l'Européen, c'est d'origine tchèque, ou tchécoslovaque, c'est d'origine tchèque, c'est le Brésilien. » Pourquoi n'est pas Minou, comme Didi, Garincha? C'est le Brésilien, c'est techniquement la même chose. Masopust, grand technicien à meneur de jeu.
C'est slalom entre ses adversaires, sa conduite de balle, tête droite élevée, ou encore ses passes millimétrées, reste un demi-siècle plus tard bien présent dans le souvenir de tous ceux qui ont eu le privilège de voir évoluer Masopust depuis les tribunes, de jouer à ses côtés ou même dans le camp opposé. Un temps que pas seulement les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais dont le célèbre attaquant portugais Eusébio, lui, se souvient bien. Sacré à son tour, Ballon d'Or 3 ans après Masopust, Eusébio était présent à Prague cette semaine à l'occasion des nombreuses cérémonies qui ont accompagné la célébration des 80 ans de son ami Josef.
C'est pour moi un grand plaisir d'être présent. Lorsque j'ai appris que Josef allait fêter ses 80 ans, j'ai décidé de venir en personne. Je suis un peu plus jeune que lui, mais je considère que Masopust est un bien meilleur footballeur que moi. Lui, son rôle sur le terrain était plus compliqué que le mien. Il devait créer, organiser le jeu, alors que moi, je me contentais de finir les actions et de marquer des buts. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est pour cette raison que je suis vraiment très heureux d'être ici et que je souhaite à mon ami de vivre encore de nombreuses années.
Eusébio, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano, Pelé, autant de grands noms du jeu qui, dans les années 60, ont croisé le chemin de Josef Masopust sur les stades d'Europe et du monde et qu'une sincère amitié continue de lier aujourd'hui encore. Stanislav Rabier le confirme. Ce geste de fair-play qui a valu à Josef Masopust l'admiration de Pelé et ce surnom de chevalier du football remonte également à la Coupe du Monde 1962. Deux semaines avant la finale contre le Brésil, lors d'un match de poule opposant les Tchécoslovaques aux mêmes adversaires, Masopust se retrouve face au grand Pelé, victime d'une blessure musculaire, et s'arrête, conscient du handicap de son vis-à-vis pour permettre au roi de faire une passe. Pelé lui rend la politesse en mettant le ballon en touche. Alors forcément, ses talents de footballeur hors pair et sa qualité de gentleman valent aujourd'hui à Josef Masopust de nombreux honneurs. Le petit monde du football tchèque a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Une statue grandeur nature va donc être installée devant l'entrée du stade du Dukla de Prague, théâtre de ses exploits autrefois. Un film documentaire est en cours de réalisation et une exposition sera bientôt inaugurée au musée national. Rien que ça pour un homme qui aurait préféré fêter ses 80 ans dans l'intimité de son modeste appartement pragois.
Je ne m'en suis pas encore remis, je ne m'attendais absolument pas à tout ça, je pense que c'est exagéré. On a même érigé une statue à mon effigie alors que je ne suis pas encore mort, vous savez, je ne suis qu'un footballeur, un joueur parmi les milliers qui ont porté le maillot de la Tchécoslovaquie, c'est pourquoi j'estime que c'est trop d'honneur pour une seule personne.
Une personne qui serait toutefois sans doute devenue une vedette mondiale du jeu si le régime politique de l'époque en Tchécoslovaquie ne l'avait pas empêché de rejoindre les plus grands clubs européens. Un footballeur hors du commun qui a su rester un homme comme les autres, et c'est aussi ce que les anciennes générations de Tchèques amoureux de foot ont voulu rappeler aux plus jeunes.
minutes, c'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.